Bien que l'objet de ces notes marginales se montre assez clairement de soi-même, je ne laisserai pas de répondre aux raisons alléguées par certains pharisiens qui s'obstinent à penser que ces notes marginales ont été écrites par les auteurs mêmes des livres saints dans l'intention de marquer quelques mystères. La première de ces raisons est la plus faible à mes yeux et fondée sur l'usage qui a prévalu dans les lectures de la Bible. Si ces notes, disent-ils, eussent été mises pour indiquer des leçons différentes entre lesquelles les hommes des générations suivantes ne pouvaient faire un choix certain, d'où vient que l'usage s'est établi d'adopter constamment le sens marginal? Pourquoi les auteurs de ces notes auraient-ils mis à la marge le sens qu'ils voulaient adopter? Il semble qu'ils auraient dû bien plutôt écrire le texte de l'Écriture comme ils voulaient qu'on le lût, au lieu de le reléguer dans la marge le sens et le texte le son qu'ils croyaient véritable. La seconde raison des pharisiens, qui est assez spécieuse, est tirée de la nature même de la chose. Ils disent que les fautes du texte ne peuvent s'y être introduites de dessein prémédité, mais par hasard, et conséquemment de façon très variable. Or, dans les 5 premiers livres de la Bible, le mot qui signifie « jeune fille » est constamment écrit, sauf une exception, de manière défectueuse. Il y manque la lettre « he », ce qui est contre la règle de la grammaire hébraïque. Mais à la marge, on le trouve écrit selon la règle générale. Mettra-t-on cette faute sur le compte de la main qui a écrit l'ouvrage? Mais par quelle fatalité cette main s'est-elle précipitée chaque fois qu'il a fallu écrire ce même mot? D'ailleurs, quoi de plus facile que de corriger la faute dans le texte même, sans rien mettre à la marge? Il n'y avait point là matière à scrupule. Ainsi donc, puisque ces leçons marginales ne sont point l'effet du hasard, puisqu'on n'a pas corrigé des fautes si sensibles, il faut conclure que les premiers écrivains de la Bible y ont ajouté des notes avec un dessin réfléchi et que ces notes ont un sens mystérieux. Il nous sera facile de répondre à tous ces raisonnements. Et d'abord, l'usage qu'ils invoquent ne peut point nous arrêter. C'est sans doute par une sorte de respect superstitieux que les Juifs, trouvant les deux leçons, la textuelle et la marginale, également bonnes, et ne voulant en abandonner aucune, décidèrent que l'une des deux serait constamment écrite et l'autre constamment lue. Ils craignaient en matière si importante de faire un choix définitif et de prendre la mauvaise leçon en voulant déterminer la bonne. Ce qui aurait pu arriver, en effet, s'ils avaient décidé que l'une des deux leçons serait à la fois adoptée à la lecture et par écrit, d'autant mieux que l'on n'écrivait pas de notes marginales sur les exemplaires sacrés. Peut-être aussi voulait-on que certains mots, quoique bien écrits dans le texte, fussent modifiés ou suppléés à la lecture de la façon qui était indiquée à la marge. Et de là, l'usage s'établit d'adopter généralement à la lecture la leçon marginale. On me demandera pourquoi les scribes marquaient ainsi à la marge les changements qu'il fallait faire au texte en le lisant. C'est ce que je vais expliquer à l'instant. Car je suis loin de penser que toutes les notes marginales fussent des leçons douteuses. Plusieurs étaient destinées à remplacer les mots tombés en désuétude, ou bien ceux que l'état des mœurs ne permettait plus de lire tout haut. On sait que les anciens écrivains, hommes simples et sans malice, laissaient là les circonlocutions à l'usage des cours et appelaient les choses par leur nom. Quand vinrent les époques de luxe et de corruption, les expressions qui ne blessaient point l'oreille chaste des anciens commencèrent à passer pour obscènes. Or, bien que ce ne fût pas là une bonne raison pour altérer l'écriture, on voulut toutefois avoir égard à la faiblesse du peuple, et l'ordre fut donné de remplacer les mots qui exprimaient l'union sexuelle ou les excréments par des mots plus honnêtes, ceux-là même qui se trouvaient à la marge. Du reste, quelle que soit la cause qu'on assigne à l'usage établi de suivre la leçon marginale dans la lecture et dans l'interprétation de la Bible, il est certain du moins que ce n'a pas été la prétendue conviction que l'on avait, suivant les pharisiens, de la légitimité de cette interprétation. Car outre que les rabbins, dans le Talmud, ne sont pas ordinairement d'accord avec les massorètes et qu'ils ont adopté, comme nous le prouverons tout à l'heure, des leçons qui leur sont propres, on rencontre à la marge des exemplaires hébreux de la Bible des leçons qui ne sont point conformes à l'usage de la langue. Par exemple, il est dit dans Samuel, livre 2, chapitre 4, verset 23, « Parce que le roi a agi suivant le conseil de son serviteur. » Or, cette construction est parfaitement régulière et il s'accorde très bien avec celle qu'on trouve au verset 16 du même chapitre. Au contraire, la leçon marginale « ton serviteur » ne s'accorde pas avec la personne du verbe. De même, au chapitre 16, dernier verset du même livre, nous lisons « quand on consulte la parole de Dieu ». La note marginale « quelqu'un » est placée là pour donner un nominatif au verbe « consulte ». Mais cela est contraire aux habitudes de la langue hébraïque qui met toujours les verbes impersonnels à la troisième personne, comme le savent parfaitement les grammairiens. On trouve ainsi un certain nombre de leçons marginales qui ne peuvent d'aucune façon être substitué au texte. Il ne me sera pas plus difficile de répondre à la seconde raison invoquée par les pharisiens. J'ai déjà montré en effet que les scribes, outre les leçons douteuses, ont encore noté les mots tombés en désuétude. Car il ne faut point croire que la langue hébraïque n'ait pas subi, comme tous les autres, les variations qu'amène le temps, et qu'il ne se trouve point dans la Bible beaucoup de vieux mots hors d'usage que les derniers scribes ont notés afin de les remplacer par des mots plus usuels quand ils lisaient l'écriture au peuple. C'est pour cela que le mot « nagar » est toujours noté, car il était anciennement des deux genres et répondait exactement aux juvénistes des latins. De même, les anciens hébreux appelaient la capitale de l'Empire « Jérusalem » et non pas « Yerusalayim ». J'en dirai autant des pronoms lui-même et elle-même. Les modernes ayant changé « vous » en « yod », transformation très usitée dans la langue hébraïque, pour marquer le genre féminin, bien que les anciens n'eussent accoutumé de distinguer le féminin avec le masculin que par les voyelles. Je ferai remarquer encore que les temps irréguliers de certains verbes ne sont pas les mêmes chez les anciens et chez les modernes, que c'était chez les anciens un trait d'élégance d'employer souvent certaines lettres douces pour l'oreille. En un mot, il me serait aisé de multiplier les preuves de ce genre si je ne craignais d'abuser de la patience du lecteur. On me demandera peut-être où j'ai appris toutes ces particularités. Je réponds que je les ai trouvées dans les plus anciens écrivains hébreux, dans la Bible elle-même. Et il ne faut point s'étonner que les modernes hébreux n'aient point cherché à imiter sur certains points les anciens, puisqu'il arrive dans toutes les langues, même dans celles qui sont mortes depuis longtemps, qu'on distingue fort bien les mots du premier âge de ceux qui sont plus récents. On pourrait encore me demander comment il se fait, s'il est vrai, comme je le soutiens, que la plupart des notes marginales de la Bible soient des leçons douteuses, qu'il n'y ait jamais pour un passage que deux leçons, la textuelle et la marginale, et non pas trois ou un plus grand nombre, et aussi comment il arrive que les scribes aient pu hésiter entre deux leçons lorsque la leçon textuelle est évidemment contraire à la grammaire et que la marginale est une rectification légitime. Je n'éprouve aucun embarras à répondre à ces deux questions. Je dirais premièrement qu'il est très certain qu'il a existé un plus grand nombre de leçons que celles que nous trouvons actuellement marquées dans nos exemplaires. Par exemple, on en trouve plusieurs dans le Talmud que les Massorètes ont négligé et qui sont si différentes les unes des autres que le superstitieux correcteur de la Bible de Bomberg a été obligé de convenir dans la préface qu'il ne saurait comment les mettre d'accord. J'avoue, dit-il, qu'en cette rencontre, je ne puis que répondre ce que j'ai déjà répondu plus haut, savoir que le Talmud est d'ordinaire en contradiction avec les Massorètes. Il suit de là qu'on n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a jamais eu dans les exemplaires de la Bible que deux leçons pour chaque passage. Cependant, je veux bien faire cette concession à mes adversaires. Je crois même qu'effectivement, on n'a jamais rencontré que deux leçons, et voici mes preuves. Premièrement, j'ai expliqué la variété des leçons par la ressemblance de certaines lettres. Or, une pareille cause n'admet que deux leçons différentes. La question était toujours de savoir entre deux lettres laquelle il fallait éclairer. Par exemple, il fallait choisir entre bet et kaf, entre yod et vav, entre dalet et resh, etc. Toutes lettres dont l'usage est tellement fréquent qu'il devait arriver souvent que l'une comme l'autre donnait un sens raisonnable. Il fallait aussi savoir si la syllabe était longue ou brève. Or, ce sont les lettres que nous avons appelées muettes qui déterminaient la quantité de ces syllabes. Ajoutez à cela que nous n'avons pas prétendu que toutes les leçons, sans exception, fussent des leçons douteuses, puisqu'au contraire, nous avons expressément dit que plusieurs d'entre elles avaient été faites par un motif d'honnêteté ou pour expliquer des mots tombés en désuétude. Deuxièmement, la seconde raison que j'ai de croire qu'il n'y a jamais eu que deux leçons différentes, c'est la conviction où je suis que les scribes n'ont pu trouver qu'un très petit nombre d'exemplaires, et peut-être pas plus de deux ou trois. Car au traité des scribes, chapitre 6, il n'est fait mention que de trois exemplaires qu'on suppose trouvés par Esdras, qu'on donne comme l'auteur des notes marginales. Mais quoi qu'il en soit de ce dernier point, s'il est vrai que les scribes n'ont eu sous les yeux que trois exemplaires, on conçoit très facilement que pour un même endroit, il y ait toujours eu deux de ces exemplaires d'accord. Car il serait vraisemblablement prodigieux que trois exemplaires seulement eussent donné trois leçons différentes. Maintenant, d'où vient qu'après Esdras, la pénurie en fait d'exemplaires a été si grande ? C'est ce dont on cessera de s'étonner si l'on veut lire seulement le chapitre 1 du livre 1 des Maccabées ou le chapitre 7 du livre 12 des Antiquités de Joseph. Je dirais même que c'est chose presque miraculeuse qu'après une persécution si longtemps prolongée, on ait pu conserver ces quelques exemplaires. Et personne ne nous contredira sur ce point après une lecture même rapide de l'histoire des Hébreux. Voilà donc les différentes raisons qui expliquent pourquoi l'on ne rencontre jamais dans la Bible que deux leçons douteuses. Et conséquemment, c'est s'abuser que de s'imaginer là-dessous quelques mystères. Il ne me reste plus à discuter qu'une seule difficulté, celle que les pharisiens tirent de certains mots qui se rencontrent dans les exemplaires de la Bible et qui sont écrits d'une façon tellement vicieuse qu'ils n'ont visiblement pu être en usage en aucun temps. Pourquoi donc ne pas corriger ces mots dans le texte au lieu d'indiquer la correction à la marge? À cette question, je réponds que je ne suis pas tenu de connaître les scrupules religieux qui ont pu s'opposer à la correction directe d'un texte défectueux. Il est probable que c'est par un motif de pieuse sincérité que les scribes ont voulu transmettre à la postérité le texte de la Bible exactement tel qu'ils le trouvaient dans le petit nombre d'exemplaires qui étaient sous leurs yeux. Et quand ils trouvaient des différences entre ces exemplaires, ils les signalaient en marge, non comme des leçons douteuses, mais comme des leçons simplement différentes. Or, quant à moi, si je les ai appelées des leçons douteuses, c'est que la plupart du temps, en effet, il me serait impossible de dire quelle est celle qu'il faut préférer. Je ferai remarquer enfin qu'outre les leçons douteuses, les scribes ont comme indiqué, par un espace vide interposé au milieu des paragraphes, plusieurs passages tronqués, dont les massorètes fixent même le nombre, car ils en comptent 28. Et je ne sais trop si ce nombre de 28 ne couvrait pas aussi à leurs yeux quelques mystères. Les pharisiens vont jusqu'à mesurer avec précision la longueur de l'espace que les scribes ont laissé vide, et ils s'y conforment religieusement. Par exemple, ils écrivent ainsi le passage suivant de la Genèse, chapitre 4, verset 8. Et Caïn dit à son frère Abel, il arriva tandis qu'ils étaient dans les champs, etc. L'espace vide marque ici l'absence des paroles adressées à Abel par Caïn. Il y a dans la Bible 28 passages semblables, outre ceux que nous avons cités plus haut, et du reste, plusieurs d'entre eux ne paraîtraient pas tronqués si l'on n'avait pas laissé cet espace vide. Mais il est inutile d'insister plus longuement sur ce point.